France Inter.
Ouais, salut, c'est Samy du Canigou. Et voilà, en fait, je vous appelais par rapport à l'émission d'hier, là, avec la bergère du Biros, là, trop bien. On reconnaît bien, là, le caractère trempé de l'Ariège. Enfin, cool, cool. Et oui, c'est important aussi de souligner, justement, cette question d'usage de la montagne. Voilà, l'usage platonique, méditatif, l'usage, c'est qu'un stade pour faire des super perfs en ski, en trail ou je sais pas quoi. Et aussi un lieu de boulot pour les bergers vachés, etc. Donc, ouais, c'était chouette d'appuyer là-dessus. Bonne continuation, ciao, ciao. Et puis, bientôt les cloches là-haut. Salut.
Oui, salut Mathieu et Camille. David dans le sud-ouest. Je m'interrogeais sur l'idée de à qui appartient la montagne, en fait. Parce qu'en fait, ça, c'est une vieille question qu'on s'amuse de temps en temps quand on se promène, nous autres, les non-exploitants, qu'on s'amuse à poser aux gens qui exploitent la montagne. Et en fait, les bergers sont assez unanimes sur le fait que la montagne appartient à tout le monde, mais surtout à ceux qui l'utilisent. Et moi, je tiendrais juste à rappeler qu'il s'agit d'un espace collectif au sens républicain. C'est un espace qui est accessible et sous la responsabilité de chacun d'entre nous, que ce soit des randonneurs comme des bergers. Et que c'est pas un espace qui est dédié à une production. Mais ça, il faudrait juste leur rappeler. Voilà, à bientôt, au revoir.
Bonjour à Terre au Carré, je m'appelle Zoé, je viens d'un petit village dans les Pyrénées et je voulais revenir sur l'émission d'hier sur le pastoralisme et le métier de bergère. Avec une amie, on a créé le projet Transalpina en 2020 pendant nos études d'agronomie et en 2022, on a traversé tout l'arc alpin à pied de la Slovénie jusqu'à Monaco pour aller à la rencontre des bergères et bergers qui travaillent en alpage. On en a fait une exposition qui présente 9 portraits d'alpage et des personnes qui y vivent et y travaillent. Elle se trouve à la Maison du Berger à Champoléon dans les Écrins jusqu'au 20 novembre et on a une version itinérante qu'on déplace dans des festivals. On sera notamment à la fête de la transhumance à Châtillon-en-Diois le 8 juin. Merci beaucoup.
Bonjour, c'est Bérangère de Bruxelles. Je voulais faire part de mon indignation en écoutant la chronique de la libération de la petite orque dans l'ouest du Canada. Entendre le Premier ministre canadien se féliciter du sauvetage de l'orque m'a semblé très hypocrite de sa part quant à sa considération pour la vie sauvage au Canada, sachant que son gouvernement fait la promotion sans relâche de la chasse aux phoques et de sa consommation. Cette chasse reste cruelle, infondée. Elle s'appuie sous de faux prétextes et de bienfaits pour les personnes et pour l'environnement, mais est en réalité un soutien indéfectible au lobby de pêche du pays. Quel écœurement de voir qu'après toutes ces années de bataille pour les associations internationales, un gouvernement censé être humain ne l'est toujours pas. Merci La Terre au Carré pour vos sujets toujours excellents.
Et merci beaucoup pour vos messages et votre écoute attentive de nos émissions. Je vous invite à nous laisser vos messages pendant le week-end en nous appelant sur ce numéro le 01 56 40 45 45. Au sommaire de notre club aujourd'hui, les nouveaux mots de l'écologie qui font leur entrée cette année dans l'édition 2025 du Larousse illustré. Jean Pruvot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes lexicologue et historien de la langue française et vous êtes le parrain de ce nouveau millésime du Larousse. On va parler avec vous de fast fashion, de platisme, de PFAS ou de zones à faible émission. Et vous nous expliquerez comment les nouveaux mots font leur entrée dans le dictionnaire. L'immensité du cosmos racontée en images par une astrophysicienne pour vivre une aventure là, juste au-dessus de nos têtes. Bonjour Fatouma Takebe.
Bonjour.
Vous êtes, selon la BBC, l'étoile montante de l'astronomie française. Vous publiez Au-delà du ciel, c'est aux éditions Les Arènes. Et vous nous embarquerez tout à l'heure dans ce voyage au cœur de l'univers. Et puis enfin, il est le deuxième cerveau d'un duo d'activistes qu'il a construit avec la militante Camille Etienne, le réalisateur Solal Moisan et le troisième invité de ce club. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes fait connaître des internautes au moment du confinement avec la vidéo Réveillons-nous qui a cumulé des millions de vues sur les réseaux sociaux. Vous allez nous raconter comment vous mettez en image votre engagement écologique. Nous attendons comme tous les jours vos messages en direct pour dialoguer avec nos invités en nous rejoignant sur le site de l'émission et sur nos réseaux sociaux. Juste avant 15h, ce sera le jour où d'Anaël Verzo. Aujourd'hui, sa rencontre avec le biologiste Marc-André Sellos qui nous racontera le jour où il a découvert un champignon fascinant. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Romane Lévy et Joël Levert, avec Paola Collin à la technique.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Les dictionnaires, c'est comme le Festival de Cannes. Tous les ans en mai, la sélection des nouveaux mots est présentée au grand public. Et tous les ans, il y a les mots qu'on croit connaître et tous ceux qu'on ne connaît pas forcément comme zadiste, MOOC ou Big Data.
En écoutant la radio, en regardant la télévision, en discutant avec nos amis, en allant au cinéma, en fait, la langue évolue tout le temps, donc on est tout le temps aux aguets. On essaye de repérer ces mots nouveaux en permanence.
Tous les ans, plusieurs centaines de mots nouveaux rentrent dans les dictionnaires, des volumes qui pèsent de plus en plus lourd.
Et on entendait Édouard Trouillet, lexicographe, avec ses reportages de France 3 du 19-20 en 2015. Détox digital, fast fashion, méga bassine, platisme, verdir ou encore zéro déchet. De nouveaux mots donc de l'écologie font leur entrée dans cette édition 2025 du Petit Larousse illustré. Jean Pruvot, vous êtes donc lexicologue et fondateur de la journée des dictionnaires qui se déroule chaque année en mars. Et vous êtes donc 30 ans déjà.
Oui.
Vous êtes le parrain de ce millésime du Petit Larousse et vous êtes aussi collectionneur de dictionnaires. Vous en possédez combien? Vous avez compté?
Plus de 10 000, mais j'ose à peine le dire.
Tout ça dans votre maison? Ça tient dans votre maison?
Oui, alors de la cave au grenier, bien sûr.
Même dans les toilettes, paraît-il, il y en a partout. Hein. Oui, c'est ça. Vous êtes habité par les dictionnaires. Comment de nouveaux mots font leur entrée dans un dictionnaire? Quel est le processus de sélection de la part des lexicographes? Comment ça marche?
Ben, par exemple, là je suis à peu près sûr que des gens de la Maison Larousse sont en train d'écouter l'émission. Ils vont peut-être entendre de nouveaux mots et des mots qu'ils ne connaissent pas ou qui ne sont pas entrés dans les 60 000 premiers mots de la langue. Et s'ils les entendent de nouveau, eh bien, petit à petit, ils entrent dans, en quelque sorte, les candidats au futur millésime. Donc c'est la radio, c'est la télévision,
la rue.
Ce sont même les devantures de magasins, la rue, et ce sont des comités de vigilance, en quelque sorte, et des gens qui sont très attentifs aux nouveaux mots. Alors évidemment, les journaux sont aussi, et les romans, tout est prétexte pour cueillir des mots, et ensuite, ça c'est le bon prétexte, et ensuite les analyser et examiner quand ils peuvent atteindre suffisamment d'occurrence pour entrer dans les 65 000 à peu près premiers mots de la langue française.
Il faut une certaine durabilité.
Voilà, c'est en ce sens que le dictionnaire est très utile parce que on a ce que la communauté doit savoir.
Et il faut sentir l'air du temps, donc.
Oui, absolument.
Tant qu'à faire. Solal Moisan, vous avez quel âge?
J'ai 28 ans.
Vous avez 28 ans. Ça vous évoque quoi, vous, ce Larousse-là qui est posé là sur le bureau, qui doit peser combien, genre, à peu près 3 kilos,
3 ou 4 kilos. Bah, il existe aussi.
Qu'est-ce que ça évoque à quelqu'un de votre génération? Franchement, parce que vous regardiez presque cet objet avec étonnement tout à l'heure.
Tout à fait, non, ça évoque des souvenirs d'enfance, c'est sûr. Quand j'allais chercher les mots, je me souviens quand même.
Ouais.
J'ai vécu ça. Là, j'entendais 10 000 dictionnaires. Je me suis dit, en fait, ça fait des murs porteurs pour la maison, c'est génial.
C'est très bon pour l'aspect phonique et puis aussi pour,
Pour isoler
le climat.
Hein.
Ouais. C'est hyper intéressant, c'est des questions que je me pose. Par exemple, là j'entends parler de plein de mots d'écologie. Quand on parle d'activisme ou quand on parle d'écologie, en fait, toujours définir les mots, c'est toujours une question qu'on se pose et qu'on nous pose souvent. Et c'est toujours des questions difficiles pour nous parce que c'est très très compliqué de les définir.
Est-ce qu'on a beaucoup d'ailleurs des nouveaux mots de l'écologie dans ce cru 2025 ou pas?
Alors j'ai fait une sorte de relevé de 2000 à 2025 et j'ai vu que ça a augmenté considérablement.
Ah oui.
Peut-être que tout à l'heure, nous verrons aussi que c'est presque porteur d'une époque. Hein, quand, je ne sais pas, bio-climatique entre en 2010, climato-sceptique en 2014, agroécologique en 2015, et puis on arrive à la permaculture en 2018. Je parle des millésimes, éco-forestiers. Et alors là, on a un bouquet que vous avez déjà évoqué, hein, détox, agrotox,
alors ça, c'est les nouveaux,
etc.
C'est ceux de cette année, hein, finalement. Donc on va en parler un petit peu avec vous, parce qu'il y en a qui vont intéresser nos invités, parce qu'il y a à la fois les sciences et l'environnement. Tiens, il y a les PFAS, par exemple. Ça, c'est pour Solal Moisan, qui vient de réaliser un film sur le sujet avec Camille Etienne. Bim, il est dans l'édition 2025. Hein.
Oui, alors c'est là où on se rend compte, on prend conscience que dès qu'un mot commence à avoir un rôle important dans la lutte contre le dérèglement climatique, contre les excès de toutes sortes, eh bien, le mot s'impose. Donc il y en a qu'on imagine peu... Il y en a parfois de drôles aussi. Quand je lis longe-côte, j'ai longtemps compris, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Je me regardais les côtes, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, le longe-côte, c'est finalement longer les côtes dans l'eau, et c'est très bon pour la masse musculaire. Donc on a comme ça des mots qui sont
mais
aussi merveilleux.
Jean Prévost, pour revenir au PFAS, parce que c'est ce nom donné donc aux polluants éternels en raison de leur persistance dans l'environnement, estimé à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. C'est un mot finalement, et un problème qui est apparu assez récemment. Hein. D'ailleurs, vous en parlez dans votre documentaire,
oui,
Solal.
Oui, et par ailleurs, à chaque
fois... Donc il a fait une entrée rapide dans le dictionnaire, on pourrait dire les choses comme ça, non?
Oui, parfois parce que la politique ou les débats font qu'il faut absolument comprendre le mot. Parce qu'il faut bien avoir en tête que le dictionnaire, c'est aussi les mots, et vous l'avez fort bien dit tout à l'heure, c'est les mots qu'on ne comprend pas. Hein, et donc, si on ne sait pas ce que ça veut dire, il faut que le dictionnaire le donne, même si c'est un mot anglais. Et là, on voit bien que nous est même donné l'origine étymologique qui est compliquée, un père, une polyfluoroalkyle substance, et on comprend que c'est un sigle au départ.
Ouais.
Et donc là, c'est quelque chose qui nous émerveille, parce qu'il y a les mots qu'on connaît, mais pas si bien que ça. Et on a besoin de les définir. Les lexicographes sont là pour mieux les définir, grâce à vous, grâce à toute votre action. Et puis de l'autre côté, les mots, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, alors il faut vraiment aller chercher à ce moment-là la définition.
Solal Moisan, est-ce que justement ça a été une difficulté pour vous de vous approprier ce mot PFAS, hein, qui est quand même récent aussi dans le débat public, et d'en faire un documentaire?
Carrément, en fait, je suis très heureux d'entendre qu'il est dans le dictionnaire, parce que ça a été pour nous une découverte au tout début du documentaire, et d'essayer de comprendre les contours de ce que sont les PFAS. Parce que justement, exactement comme je disais tout à l'heure, les PFAS, ça a été compliqué parce que c'est une molécule qui ne se voit pas, c'est quelque chose de très très petit. On est dans l'infiniment petit, peut-être qu'on parlera de l'infiniment grand tout à l'heure. Mais,
c'est sûr.
Ça a été très compliqué parce que pour essayer de définir et de vulgariser ce que sont les PFAS, qui est donc un composé chimique qui à la caractéristique de lier des atomes de fluor et de carbone. Et ça, c'est une liaison qu'on n'a pas dans la nature, et on l'a construite nous-mêmes, et ça pose beaucoup de problèmes.
C'est les industriels, évidemment, qui en ont profité. Les méga-bassines, Jean Pruvot, ça aussi, c'est quand même un sujet plutôt assez récent dans le débat public. Ça y est, il entre dans le dictionnaire. Oui, alors, réservoir d'eau à ciel ouvert, de grande taille.
Alors, il y était en 2024. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un mot peut se trouver là en 2024, et en 2025, enfin dans le millésime 2025, on ajoute un commentaire critique, puisque les mégabassines ont été très critiquées. Eh bien, le dictionnaire en rend compte.
Les opposants mégabassines dénoncent notamment leur impact sur la biodiversité, ainsi qu'un accaparement de l'eau au seul profit de l'agriculture.
Voilà, c'est un ajout.
Donc ça, c'est un ajout.
Et donc, ça a quelque chose de très important, même historiquement. Plus tard, on dira, dans le petit Larousse, en 2025, on a pris conscience qu'il y avait un problème.
Il y a un autre mot qui me semble intéressant, c'est verdir.
Verdir,
la définition, c'est devenir plus respectueux de l'environnement. Comment aider l'industrie automobile à verdir, rendre donc plus respectueux, verdir un bâtiment, un secteur d'activité? Alors, ce qui est drôle, c'est que vous n'en donnez pas l'aspect péjoratif ou greenwashingiste, quoi. On pourrait presque dire.
Alors, ce qui est intéressant aussi, merci de me pousser du côté vert, ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a des mots qui sont traduits. Le greenwashing va donner l'éco-blanchiment, et on va trouver dans les planches aussi, et notamment dans les grandes questions environnementales, des mots qui vont nous aider à mieux percevoir en quelque sorte ce qu'est verdir quelque chose.
Ouais.
Alors on le comprend, verdir. Éco-blanchiment, c'est un peu compliqué, mais enfin on peut le comprendre.
Ouais.
Greenwashing, c'est un anglicisme. Il fallait qu'il y soit, mais il a besoin d'une explication. Parce que pour un anglais, c'est très clair. Pour nous, il faut déjà un petit peu comprendre qu'il y avait le whitewashing avant, qui était blanchir à la chaux. Et sur whitewashing, on a fait greenwashing.
Il y a un mot qui devrait intéresser Fatoumata Kébé, c'est le platisme.
Oui. Pas trop, en fait.
La croyance selon laquelle la Terre, malgré un consensus scientifique séculaire, serait plate et non de forme quasi-sphérique. Vous nous confirmez que la Terre est bien sphérique.
Elle est bien sphérique, oui. C'est un globe.
Il n'y a pas de sujet là-dessus.
Apparemment, si.
Ah ben voilà.
Quand même.
C'est incroyable. Il faut quand même...
Oui, là aussi, je dirais...
Expliquer ces mots.
Oui, d'abord parce qu'il existe. Donc, pour le combattre, il faut le connaître. Et après tout, si quelqu'un me dit « je suis platiste », dans un premier temps, je me demande de quoi il s'agit. Là, je vais pouvoir vérifier de quoi il s'agit. Et puis, il y a un petit commentaire qui montre que c'est totalement...
issu des thèses complotistes.
Ça va à l'encontre de toutes les thèses. Mais parfois, il y a des points comme ça que sans doute vous connaissez très bien. Moi, je découvre le point Nemo, par exemple. Je ne savais pas que ça existait. C'est un point de l'océan éloigné de toute terre émergée, où vont mourir les satellites spatiaux, et on appelle aussi pôle maritime d'inaccessibilité.
Ouais.
Donc ça manque pas de charme, tout ça.
Ouais. Mais il n'y a pas un Nemo, d'ailleurs, dans votre ouvrage, Fatoumata Kébé? Il n'y a pas une nébuleuse ou quelque chose comme ça? Non?
Un Nemo, alors, en tout cas, c'est pas rattaché à la signification que moi aussi j'ai, qui est cet endroit sur Terre où on fait atterrir tout ce qui est engins spatiaux. Donc c'est plutôt un cimetière, c'est tellement vaste que ça a été c'est une décharge sur Terre. Et du coup, ça me fait penser que pour rendre, enfin, on parle de verdir pour rendre plus respectueux, mais comme moi je travaille sur l'environnement autour de la Terre, là c'est pas la couleur verte à laquelle on va se rattacher. Donc peut-être qu'il y a un autre mot à...
Pour les déchets, par exemple.
Pour les déchets spatiaux.
Les déchets spatiaux, parce que ça a été votre spécialité, ça l'est encore d'ailleurs.
Oui.
Donc il faudrait trouver un mot spécifiquement pour les satellites en orbite, Jean Prouveau.
Alors je crois que la néologie est toujours à l'œuvre, donc ça peut être quelqu'un comme vous, vraiment spécialiste, qui peut inventer un mot.
Ah, est-ce que vous en avez un?
Vous imaginez, ce soir, je vous l'envoie.
C'est le moment ou jamais de rentrer dans le Larousse quand même. Hein.
C'est
l'occasion.
Et
hein.
Si
c'est
le clair. Mot a du succès, ben ensuite, en fonction de sa fréquence, il entre dans le dictionnaire. Ouais. Alors souvent, je dirais presque que souvent, on prend l'anglais greenwashing et on crée éco-blanchiment, ce qui est pas mal. Mais c'est bien aussi que nous-mêmes créons le mot tout de suite. Hein. Et ça, c'est un charme fou dans nos différents dictionnaires. J'entends les viandes cultivées. Bon, jamais on aurait pu dire ça il y a 30 ou 40 ans.
La viande artificielle.
Oui, c'est ça. Et alors, on évoque d'ailleurs que c'est un produit équivalent à la viande sans abattage d'animaux. Donc, on n'est pas loin aussi du véganisme, des choses de ce type. Donc, tout ça, c'est... Les dictionnaires ne prennent pas parti. Mais, cependant, ils témoignent.
Ouais.
Et ils donnent, évidemment, quand il s'agit du platisme, ils peuvent quand même évoquer que c'est assez utopique.
Est-ce que, Solal Moisan, en tant qu'écolo, vous consommez du kombucha ou du kimchi?
J'avoue, j'ai déjà bu du kombucha, oui.
Ouais. Boisson à base de thé, ça fait aussi son entrée dans le Larousse, Jean Prouveau.
Oui, hein. Alors il y a le nolé aussi. Qui est une sorte de, on dit que ça ressemble aux épinards,
et
qui est en même temps médicament, mais aussi un très bon plat à travailler avec les feuilles. Donc souvent la gastronomie,
le limkouat,
l'écologie
aussi
est là, oui,
fait son entrée. Hein. Alors pour la science, toujours pour Fatouma Takebe, il y a la ligne de, on dit Karman.
Karman, oui.
Qu'est-ce que c'est alors la ligne de Karman?
C'est la ligne qui délimite, on va dire, la Terre de l'espace. À partir du moment où une personne traverse la ligne de Karman, on considère qu'elle est allée dans l'espace.
Ouais.
Même si on n'est pas trop d'accord sur sa...
Le kilométrage, en
exactement, fait. Exactement, c'est 80 km pour certains, d'autres c'est plutôt 100 km.
Eh ben pour le Larousse, c'est 100 km, entre l'atmosphère terrestre et l'espace situé à 100 km d'altitude.
D'accord, moi j'ai regardé pourquoi vous avez pris cette décision. Juste que c'est intéressant même pour moi en tant que...
Il y a beaucoup de polémiques d'ailleurs sur les définitions des mots.
Alors, en général, très peu. Parce que il y a aucune définition scientifique ou religieuse, parce que là aussi les religions, il s'agit de dire réellement les choses sans s'engager, et donc généralement sont consultés les scientifiques ou les ouvrages scientifiques, et à ce moment-là, parfois il y a une définition. Quand vous donnez une définition dans vos ouvrages ou dans vos recherches, bien entendu les lexicographes les lisent et en tiennent compte.
Il y a un autre mot qui fait son entrée dans le dictionnaire, c'est masculinisme, qui fait référence à une idéologie nord-américaine en réaction au mouvement féministe. Quelle est la part de féminisation de la langue, justement? Est-ce qu'il y a un phénomène qui se passe en ce moment?
Alors, comme vous le savez,
je viens
d'écrire le féminin
au fil des mots et de l'histoire. C'est chez Talandier.
Chez Talandier. Donc, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité.
Ouais.
Et là aussi, en regardant, par exemple, les définitions successives du Petit Larousse, féminicide est un mot qui existe depuis 150 ans, en réalité. Mais il a une réalité forte, avec un problème de législation à mettre en place, que depuis une dizaine d'années.
Mm-hmm.
Donc le Petit Larousse, qu'on suit petit à petit cette définition, on s'aperçoit qu'à un moment donné, il prend même parti en disant que, pour le moment, ça n'est pas entré encore dans la loi, mais ça va venir. Et en fouillant un peu, on s'aperçoit que c'est parce que infanticide, parricide, a été revu en termes de loi, et donc féminicide ferait bouger tous les autres termes.
Voilà donc quelques exemples en tout cas de ces mots qui font leur entrée dans ces domaines qui nous intéressent tout particulièrement ici dans cette émission. Quand est-ce qu'il sort d'ailleurs ce nouveau
Petit Larousse? Alors il sort dans une dizaine de jours.
Dans une dizaine de jours, c'est ça.
Voilà.
Nouveau Larousse illustré 2025, et puis il y a la version numérique. Parce que
oui, voilà. Il y a quand même 2000 pages, donc c'est quelque chose d'énorme.
Et vous dites qu'il faut garder même ces vieux dictionnaires, il ne faut pas les jeter.
Alors bon, évidemment,
sauf si on veut,
vous savez que je les ai tous depuis 1905.
Et pas seulement pour faire une...
Il n'est pas rare qu'un ami journaliste, ça m'est arrivé de quelqu'un de France Inter, me demande par exemple quand le mot chewing-gum est entré dans le Petit Larousse.
Donc il vient chez vous.
Comme je les ai tous, eh bien je fouille.
Exactement.
Et ma fille, qui est sociologue...
Geneviève Prouveau.
Oui, un jour m'a demandé, papa, quand le mot draguer est-il entré dans le Petit Larousse avec un sens, non pas péjoratif, mais enfin de séduire.
Oui.
Et j'ai cherché, effectivement, avant c'est vraiment un terme des marins, puis un terme vulgaire, puis ça devient un terme un peu familier, et j'ai pu lui dire à telle date.
Très bien. Donc on lit le nouveau dictionnaire.
Oui, hein, oui, oui, bien sûr. Et puis ça peut servir à... l'année prochaine, on aura la suite.
À protéger du bruit également, le petit Larousse 2025. Et puis Jean Pruvot, donc le féminin au fil des mots et de l'histoire. Ça, c'est vous qui signez cet ouvrage aux éditions Talendier. Vous restez avec nous. Dans un instant, on file dans l'immensité du cosmos avec Fatoumata Kébé. Playback, Aaron Fraser à l'instant sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
La NASA a révélé les premières images du puissant télescope James Webb qui ouvre une fenêtre sur l'univers tel qu'il était juste après le Big Bang il y a un peu plus de 13 milliards d'années en arrière. Après un premier cliché, l'agence spatiale américaine a dévoilé celle de deux nébuleuses d'une exoplanète et d'un groupement compact de galaxies. Parmi les cibles de James Webb, la nébuleuse Karen, à environ 7600 années-lumière de la Terre, illustre la formation des étoiles dont certaines sont plusieurs fois grosses comme le Soleil. Chaque jour qui passe, nous obtenons davantage d'informations. D'ici Noël, j'aurai 30 fois plus de données que nous n'en avons aujourd'hui.
Euronews en 2022 avec Mark McCogan, le conseiller scientifique de l'Agence spatiale européenne. Fatoumata Kébé, vous êtes astrophysicienne, docteur, hein, avec un
c'est
E.
Ça.
Vous posez la question justement à Jean Pruvot. En astronomie à la Sorbonne Université, vous êtes spécialiste de la trajectoire des débris spatiaux et vous publiez « Au-delà du ciel, comprendre l'univers grâce aux dernières images des télescopes ». C'est aux éditions Les Arènes. On entendait parler de la nébuleuse de la Carène. Elle figure justement dans votre ouvrage. Parce que vous êtes beaucoup inspiré des photos du James Webb justement.
Oui, alors c'est vrai que ça fait longtemps que je partage sur mes réseaux sociaux des images d'astronomie que je commente. Mais là, c'est vrai que James Webb, c'est une précision jamais inégalée qui fait que j'étais obligée en fait, de mettre des images de ce télescope dans le livre.
Ça ringardisait presque les images précédentes ou pas?
Je dirais que non. Pour moi, en fait, c'est assister à l'évolution de l'astronomie sur une courte période de temps, en fait. Mm-hmm. Parce qu'entre Hubble et les télescopes spatiaux Hubble et James Webb, il y a à peu près 30 ans.
Ouais.
Et de me dire qu'on peut assister de notre, enfin, dans notre vie à cette évolution, en fait.
Ouais, mais cette précision dont vous parlez, c'est aussi, pour le coup, pour le néophyte, aussi une esthétique supplémentaire pour des images qui gagnent en précision, qui gagnent en beauté, en couleur.
Exactement, surtout qu'on est à l'ère de l'image, et là, clairement, c'est des images qui vont toucher beaucoup de gens de par le monde.
Ouais, les piliers de la création, par exemple, qui sont archi connus, je crois que c'était même la première image du James Webb en 2022, il me semble, hein. Ils ont montré une image des piliers de la création, en tout cas, ça devait être dans les premières.
Parmi les premières.
Hein, c'est ça, hein, qui avait été aussi, évidemment, immortalisé par Hubble, et on a vu la différence, quand même, entre les deux. Hein.
Incroyable.
Incroyable, hein.
Incroyable. C'est vraiment cette capacité qu'a le James Webb de traverser la poussière et de nous montrer ce qui se cachait derrière ces poussière.
Exactement. Et donc, vous offrez ce voyage dans le cosmos. Est-ce que vous étudiez toujours les débris spatiaux ou pas?
Toujours, ça reste un sujet d'actualité qui prend de plus en plus de place.
Ouais, ça s'arrange pas dans le ciel?
Ça ne s'arrange pas, effectivement, puisque donc on a des acteurs qui deviennent de plus en plus forts. Et on n'a surtout pas, en fait, une législation qui soit assez forte pour que tout le monde soit au même niveau. Parce que oui, en France et en Europe, il y a de très gros efforts qui sont faits pour préserver l'environnement autour de la Terre. Mais c'est pas le cas dans d'autres pays.
Ouais.
Et donc, c'est comme si, en fait, on mettait un retard aux entreprises privées françaises et européennes parce qu'elles respectent certains codes. Et ce qui n'est pas le cas pour d'autres entreprises.
Donc, il n'y a pas encore une loi internationale pour véritablement encadrer tout ça?
C'est ça. Pas suffisamment forte pour encadrer tout ça.
Ouais. Donc, l'espace devient une poubelle en ce moment?
L'espace devient encombré. Et aussi, ça impacte de plus en plus, du coup, les astronomes. Puisque maintenant, on a ce qu'on appelle les constellations de satellites, donc des groupes de satellites qui sont envoyés par soixantaine dans le cas de...
Oui, c'est des grappes, hein, en fait,
SpaceX.
C'est ça, ouais.
C'est ça. Et en fait, ces satellites reflètent la lumière du Soleil. Et donc, pour les télescopes, ils sont basés sur Terre. Eh bien, quand on prend des images de certains astres célestes, on a cette pollution lumineuse qui fait qu'on doit traiter les images pour retirer cette pollution lumineuse, mais ça coûte de l'argent qui n'était pas prévu. Et en plus, en retirant cette forme de pollution, eh bien, on perd peut-être des informations qui étaient d'intérêt pour l'étude de l'objet en question.
Et est-ce qu'on a des moyens de nettoyer l'espace aujourd'hui ou pas? Des moyens efficaces, en tout cas?
Alors, on doit encore beaucoup investir dans la recherche. Enfin, il y a des missions qui sont en cours de préparation, comme celle de ClearSpace. Et on n'a pas encore de preuve évidente que ça va marcher.
Ouais. Solal Moisan, vous avez un bon sujet, là, d'écologie spatiale? Ça peut vous changer aussi
Je connais de manière très lointaine le sujet, et je me pose une question, c'est est-ce que c'est dans les films que j'ai pu voir, qui parlent un petit peu de ça, est-ce que les déchets qui entourent la Terre sont aussi un problème pour les vaisseaux? Est-ce que ça peut altérer les vaisseaux? Parce que j'ai l'impression qu'ils tournent autour de la Terre.
Vous pensez à Gravity un petit peu, par exemple?
Par exemple,
à tout hasard.
Comme ça, je...
Pour citer. Oui, bah en fait, les débris spatiaux, il y a un danger donc dans l'espace, puisque ça peut entrer en collision avec un satellite qui est en mission, et aussi la Station Spatiale Internationale, qui est un lieu qui accueille des astronautes. Il y a aussi un risque limité sur Terre, puisque ça peut rentrer sur Terre, survivre à l'atmosphère et impacter des habitations ou des personnes. Et en plus, donc il y a un sujet qui émerge de plus en plus, c'est que quand un objet artificiel, donc c'est pas forcément un débris, pénètre l'atmosphère, il réagit avec l'atmosphère. Et certains éléments qu'on trouve dans ces objets artificiels réagissent avec l'ozone, et c'est pas bon du tout non plus, du coup, pour notre planète.
Donc c'est un vrai sujet d'écologie aussi. Hein.
C'est un
comme
vrai
si on n'en avait pas suffisamment sur Terre,
c'est
il faut
ça.
Aussi de s'occuper de ce qu'on a au-dessus de la tête. Il y a heureusement suffisamment de place dans l'univers pour trouver des zones épargnées, heureusement, parce que notre petite planète, elle est vraiment minuscule, mais il faut aller loin pour voir un ciel pur, en tout cas dénué de pollution lumineuse. Comment est-ce que vous avez choisi les images de ce livre « Au-delà du ciel » Fatouma Takebe?
Alors,
vous aviez une sélection particulière ou c'était vraiment en fonction de vous, de vos coups de cœur presque?
Alors c'était en fonction de moi. C'est vrai qu'il y a des objets, je voulais être sûre qu'ils apparaissent. Parce que je me dis que ce n'est pas des images qu'on voit souvent, comme les nébuleuses sombres. Et aussi, parler de certains, des nébuleuses planétaires, puisqu'on parlait des mots tout à l'heure. En fait, en astronomie, en tout cas, il y a des mots qui ne sont pas en lien avec ce qu'est l'objet. Une nébuleuse planétaire n'a aucun lien avec une planète, et pourtant on a gardé le nom.
Ah ça c'est intéressant, hein, Jean Prévost.
Oui, alors, moi ce que je trouve merveilleux quand même, c'est que la littérature n'est jamais très loin, parce que tout à l'heure on parlait du point Nemo. Bon, oui. Nemo, c'est Jules Verne, hein, donc là on est en connaissance de cause. Et puis là, je suis presque inquiet en vous écoutant, parce que c'est fascinant, mais je vois que le petit Larousse a repéré les planètes errantes, vagabondes ou orphelines, et ce sont des planètes dont la masse donc, n'est pas en orbite autour d'une étoile. Alors je me dis, pour la science-fiction plus tard, il faudra aussi se promener entre les planètes errantes.
Mais c'est étonnant en fait que les mots ne correspondent pas forcément non plus à l'objet, comme vous l'expliquiez Fatouma Takebe.
Et on les garde en fait. Ouais. C'est ça que même moi, des fois, je me dis, est-ce qu'un jour, il ne faudrait pas qu'on fasse un travail dessus? Parce que le mot planète, il a été redéfini en 2006, quand Pluton a perdu son statut de planète.
Ouais.
Et c'est marrant parce que le mot planète vient justement d'un mot latin qui veut dire astre vagabond.
Oui.
Parce qu'à l'époque, on regardait un ciel étoilé, on voyait des petits points se déplacer par rapport aux étoiles qui semblent fixes parce qu'elles sont très loin.
Et donc il y a une erreur sur la définition ?
Sur la perception, pour moi, c'est vrai. Puisqu'on dirait que ça sont vagabonds, parce qu'on voit toutes les étoiles qui restent figées dans le ciel, et on voit des petits points qui se déplacent. On se dit, c'est des vagabonds. Donc là, je me dis, je comprends le sens. Mais une nébuleuse planétaire, pour moi, c'est vraiment où je me dis, ça serait bien de retirer le mot planète, planétaire.
Alors, vous parlez de... Oui, Jean Prévost.
C'est là où l'histoire des mots est formidable, et que les savants, comme vous, sur un sujet, puissent se souvenir que planète, ça veut dire errant, et après, on arrive à planète errante, qui est une sorte de pléonasme, à la limite, en termes étymologiques. Les mots changent de sens, et vous aider à leur trouver un sens plus précis.
Fatouma Takebe, il y a justement une image étonnante que vous évoquiez, celle d'une nébuleuse sombre. En photographiant donc la Voie lactée, on tombe parfois sur des zones d'obscurité entourées d'étoiles, comme si on avait gommé l'image. C'est vraiment très étonnant, vous mettez justement l'image dans le livre, c'est assez stupéfiant, c'est-à-dire qu'on voit un ciel étoilé, et au milieu une grosse masse sans rien. Ça, c'est une nébuleuse sombre.
Exactement, et c'est ça qui est effarant, c'est que des fois je me mets à la place des personnes qui ont vu ça pour la première fois de leur vie, et de se dire, mais comment ça, tout d'un coup, il y a une zone sombre dans le ciel. Et voilà, et ça, je me dis, je suis sûre que c'est un objet dont on parle très peu au niveau, avec le grand public. Et là, je me dis, c'est l'occasion de montrer une image de ce à quoi ça ressemble.
Moi, j'ai trouvé que c'était l'une des images les plus impressionnantes, finalement, aussi, de l'ouvrage. Ces nébuleuses sombres, en fait, n'émettent pas de lumière, c'est ce que vous racontez, mais elles peuvent donner naissance à de nouvelles étoiles.
C'est ça. Et pour ça, il faut qu'elle s'effondre sur elle-même pour pouvoir provoquer les réactions qui permettront peut-être d'avoir des étoiles.
Quelles sont vos images préférées dans toutes celles que vous avez triées là, pour le livre ? Si vraiment il y en a une qui vous parle particulièrement, ce serait laquelle ?
Une seule.
Allez, il y en a trois, mais on va en prendre au moins une.
Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle avec Jupiter et la grande tache rouge de Jupiter. Donc c'est une tache rouge sur Jupiter en fait qui fait deux fois la taille de la Terre. Mmh. Et en fait ce que je trouve fascinant, c'est de me dire que cette tache a été observée il y a plus de 300 ans. C'était en 1660. Enfin, on considère que parmi les premiers qui l'ont observée, il y a Monsieur Cassini, qui a dirigé l'observatoire de Paris. Et il a mis ça dans ses écrits en 1665.
Il l'a répertorié donc à ce moment-là.
Exactement. Ouais. Et pour moi en fait, ça me rappelle justement un autre champ de recherche qui s'appelle l'archéoastronomie, l'archéologie plus astronomie. Et je me dis mais en fait ça, on peut retrouver une partie de l'histoire à travers l'astronomie. Enfin, on sait que des fois, maintenant, on sait calculer les éclipses qui ont lieu par le passé. Et du coup, on peut les corréler à certains événements qui ont eu lieu. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette tache rose de Jupiter. Parce que je me dis, en fait, elle en fait partie.
Mais cette tache, en fait, c'est une énorme tempête aussi.
Une énorme tempête qui dure depuis des siècles.
C'est ça, c'est incroyable.
C'est incroyable.
Ce sont des vents de plus de 700 km/h et qui n'ont jamais cessé depuis autant de siècles, en fait.
Exactement.
C'est ça, Et ça veut dire quoi alors ? Ça révèle aussi, parce que c'est une image très colorée, celle de Jupiter.
Oui.
Donc il y a tous ces changements de couleurs, ces bandes qui ornent la planète. Et ça raconte quoi de Jupiter ?
Ça raconte son histoire, qui est différente du coup de celle de la Terre. Puisque Jupiter, c'est une planète sur laquelle on ne pourrait pas se poser. Puisque certes, il y a un noyau qui est plus ou moins solide, mais c'est recouvert d'un océan. Et c'est vraiment d'essayer de comprendre en fait, l'histoire de notre système solaire qui est... Mmh. D'accord, le Soleil s'est formé, ensuite les planètes se sont formées, mais elles sont toutes différentes les unes des autres. Et pourquoi en fait ? Et pourquoi cette tempête ? C'est stressant.
Carrément. Ça crée du stress.
Ouais, mais de la même manière dans notre place dans le cosmos, c'est pourquoi on est là, à cet endroit-là.
Ah, c'est vrai que ça peut être stressant d'imaginer
on est tout seul.
Le grand vide.
Ouais. C'est ça.
La Terre vue de Saturne, ça aussi c'est une photo qui est vraiment magnifique, une image assez émouvante et qui relative beaucoup notre place précisément dans l'univers, puisqu'on nous voit vraiment comme un tout petit point, puisque c'est Saturne qui prend vraiment la place sur l'image. Et en fait, des images de la Terre, il n'y en a pas tellement. Vue du ciel, à part celle de Yann Arthus Bertrand, mais véritablement quand on est dans le cosmos comme ça.
Alors moi j'en ai vu pas mal, mais après c'est parce que je prends des images pour mon travail. Mais c'est vrai qu'on va plus prendre le temps de regarder ce qui se trouve en dehors de la Terre.
Ouais, mais vous dites qu'il y a quand même très peu d'images prises depuis les confins du système solaire, des images de la Terre prises du confin du système solaire.
Bah, il faudrait déjà manipuler le télescope spatial pour qu'il observe Terre en soi.
Le tourner dans le bon sens.
C'est ça. Et après, c'est vrai que pour la Terre, c'est plus tout ce qui est observation faite par des satellites qui se trouvent quand même à proximité.
Ouais. Fatoumata Kebe, vous avez créé une association éphéméride pour parler aussi astronomie aux élèves de Seine-Saint-Denis.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites précisément avec ces jeunes gens?
Alors, on fait des ateliers. Par exemple, la semaine dernière, j'ai accueilli, grâce à la Villa Albertine, deux collègues américains, dont l'un est le curateur des roches lunaires venant d'Apollo à la NASA, et une autre personne, Christine Chupla, qui, elle, est responsable d'engagement scientifique à l'Institut planétaire et lunaire de Houston.
Mmh.
Ils ont amené avec eux un morceau de lune. Donc, on a fait des ateliers sur l'histoire de la formation de la Lune et également un atelier sur les distances au centre du système solaire.
Ouais. Est-ce que vous avez repéré déjà les futurs talents de l'astronomie ou de l'astrophysique parmi ces jeunes gens de Seine-Saint-Denis ou pas?
Clairement. Et pour moi, c'est en fait des scientifiques, mais dans d'autres sciences, mais qui ont vu ce qu'il était possible d'apprendre pour eux, en fait.
Ouais. Qu'est-ce que ça provoque justement chez ces jeunes auxquels vous montrez évidemment des images, parce que ça passe aussi par ça, j'imagine, mais comment ils expriment au fond cette immensité du cosmos là, qui est votre quotidien à vous? Mais
beaucoup de fascination, puisqu'en fait on leur a fait faire une frise où ils devaient reporter les distances entre le Soleil et chaque planète, et de voir à quel point, par exemple, Jupiter était éloigné de nous, ça les a fait perdre pied. Et c'est, enfin, dans la salle, on entend « Waouh, on ne savait pas !» Et quand je leur dis « Si vous saviez, si l'image de telle étoile, à votre avis, elle est à quelle distance ?» Et c'est vrai que ça fait perdre pied, puisque là, on parle même plus de kilomètres, on parle d'années-lumière.
Donc vous leur apprenez le vertige, d'une certaine manière. Hein.
Oui, pour qu'on soit ensemble dans cet environnement vertigineux.
Vous les plongez dans le vertige.
C'est ça.
Est-ce que vous aimeriez, vous, aller dans l'espace, Fatoumata Kebe?
J'espère un jour.
C'est vrai?
Oui, même si j'ai toujours cette question de me dire, mais la Terre, ça consomme beaucoup d'aller dans l'espace.
Ouais.
Et en même temps, j'aimerais y aller un jour, donc c'est très compliqué des fois.
Et vous iriez où alors dans l'espace? Qu'est-ce qui serait faisable à votre avis?
Pour moi, déjà la Station Spatiale Internationale qui est à 400 km d'altitude.
Donc ça c'est la banlieue proche, ouais.
Voilà, et après la Lune, et pas plus loin pour moi.
Ouais. Bah, la Lune, c'est combien de milliers de kilomètres? 150 000 à peu près?
C'est 380 000 en moyenne.
Ouais.
Et c'est 3 jours de voyage, donc ça va.
Ouais, ça va.
Ça va.
Peut rentrer chez soi assez, assez rapidement.
Et on voit la Terre surtout.
Mais vous allez faire en sorte de le faire ou pas?
Oui.
Vous pourriez vous présenter comme astronaute et...
Oui, oui.
Ouais. Ah oui, vous êtes vraiment décidé.
En fait, je me dis que je tente et on verra.
Ouais, bah, vous avez bien raison.
Et je ne pourrais pas me reprocher de ne pas avoir essayé. Et surtout, c'est ce que je dis aux petits jeunes que j'ai. Donc si moi, je ne le fais pas, ce serait quand même terrible.
Bon, ben, on garde le contact pour suivre un petit peu vos aventures. Et puis en attendant,
avec
on
plaisir.
Peut vous lire et voir ces images, parce que c'est aussi un livre d'images, et surtout un livre d'images, Au-delà du ciel. Fatoumata Kebe, donc c'est aux éditions Les Arènes, pour comprendre l'univers grâce aux dernières images des télescopes. Dans un instant, du reportage engagé avec Solal Moisan. Yo, Joshi, yo, Joshi.
N'appelle pas la police. 17-17, ton cœur, j'ai des milliers. 17-17, le
Shy, 17 sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Je m'appelle Camille Etienne, je suis activiste pour le climat en France. Depuis des années, les rapports se succèdent. Les scientifiques nous alertent et pourtant, l'action concrète et massive tarde à venir. C'est cette question qui m'obsède. Pourquoi on sait, mais on n'agit pas? Avec mes deux meilleures amies, Solal, réalisateur, et Jade, qui est danseuse, nous partons filmer la fonte des glaces, direction l'Islande.
Aujourd'hui, on n'a plus le choix. L'urgence, elle est telle qu'il faut vraiment qu'on mouille la chemise et qu'on explique à tout le monde ce qui est en train de se passer.
Reste la voix de la glaciologue Heidi Sevestre.
Tout à fait.
Extrait du film Pourquoi on se bat, sorti l'année dernière et que vous avez signé Solal Moisan, vous qui êtes donc réalisateur et co-créateur d'Avant l'orage. C'est ce duo finalement avec l'activiste Camille Etienne, et vous avez également réalisé, on en a parlé tout à l'heure, un court-métrage sur les PFAS, ces polluants éternels qui s'appelle Toxic Bodies et qui est sorti il y a quelques semaines à peine en collaboration toujours avec Camille Etienne. Vous imaginez donc ensemble des vidéos de vulgarisation pour sensibiliser les gens sur la crise climatique, c'est ça?
Oui, essayer de créer à la fois de la sensibilisation, créer un sujet et essayer de le porter de plus en plus maintenant, essayer de le porter plus loin que ça, c'est-à-dire d'en faire un sujet politique et de créer un moment médiatique pour pousser un sujet. Là, ça a été les PFAS qui a découlé sur une loi. Et là, le but, c'est ça, c'est de faire avancer aussi de manière plus concrète encore. Mmh.
Comment vous avez démarré là, véritablement? Il y a eu une première vidéo pendant le confinement, c'était Réveillons-nous. 10 millions de vues, vous l'avez réalisé comment en fait? Ça a été le démarrage de votre travail ensemble.
Tout à fait. Bah en fait, on s'était rencontrés dans une asso avec Camille et on pendant le confinement, on s'est confinés ensemble. On était quatre et on était dans les montagnes de chez Camille et
dans
on avait
les Alpes,
dans les Alpes, tout à fait, vers Bourg-Saint-Maurice. Et en fait, on s'était donné l'objectif de faire une première vidéo qui nous ressemble, c'est-à-dire quelque chose qui était sans contrainte et qui était vraiment de notre propre. Enfin, avec nos personnalités qui sont tout à fait différentes et en même temps qui se complètent plutôt bien. Et c'est créé cette première vidéo qui s'appelle Réveillons-nous. Et ça a été, je pense, juste un moment qui a pas mal résonné. On parlait de Covid, on parlait de la société, du rapport à l'écologie dans ce moment-là.
Mais avec des images en extérieur aussi, c'est peut-être ça qui a fait du bien, non?
Ouais.
Pendant le confinement, c'est vrai. Vous nous offriez les massifs.
Essayer de contraster avec le texte qui était quand même assez, pas anxiogène, mais en tout cas qui donnait une réalité pas tout à fait, comment dire, pas très positive, mais on avait besoin de ça.
C'était une sorte d'inventaire d'ailleurs, hein. C'était une accumulation dans la voix de Camille Etienne.
Tout à fait, et aussi il y a de l'espoir, c'est-à-dire qu'on essaie de donner un souffle vers un élan pour se bouger et pour essayer d'aller vers quelque chose de mieux. Et effectivement, il y a ce contraste entre la voix et cette émotion-là avec la danseuse qui fait un petit peu respirer. Ouais.
Fatou Matakebe, est-ce que vous l'aviez vu ce film? Ça vous dit quelque chose ou pas?
Non, ça ne me dit rien comme ça.
Parce que c'était dans la glace, hein. Il y avait aussi... Alors, il y a eu l'autre film sur les glaces justement avec l'orchestre.
Ouais, hein. Tout à fait. Alors, ça, c'est un autre court-métrage qu'on a fait qui s'appelle Glacier, qui est pareil, pas très loin en fait finalement de l'endroit où on était sur la première vidéo. On a voulu montrer justement le rapport de l'homme versus la nature, le fait de monter une montagne, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Avec le contraste toujours qui fait partie de notre patte, c'est-à-dire à la fois du texte, des discours, et à la fois quelque chose de plus poétique et mêler un petit peu tout ça, c'est-à-dire art et discours. Et donc là, on a un orchestre dans la nature, dans la neige carrément, qui joue.
Absolument. Susciter de l'émotion et du sensible avec la crise climatique, est-ce que c'est facile aujourd'hui, justement, quand on cherche à faire ce travail de vidéaste?
Alors, je pense que c'est... Il y a plus dur parce que c'est rattaché à plein de choses qui font naître de l'émotion. La question c'est comment l'amener pour que ça soit entendu, que ça soit pas entendu par les mêmes personnes à chaque fois, et que on puisse passer à la suite, c'est-à-dire à l'action, et c'est au moins à la réflexion. Ce que je dis souvent, c'est que si on arrive déjà le temps d'une vidéo à faire réfléchir, à essayer de faire infuser la question d'une autre manière qui a été faite jusqu'ici, c'est déjà à gagner, quoi.
Fatou Matakebe, il y a cet enjeu aussi, même pour vous en tant que scientifique, de pouvoir ouvrir les portes de votre discipline à des publics qui, a priori, sont pas forcément sensibilisés à l'astrophysique.
Exactement, surtout que c'est les États en fait qui ont le pouvoir de changer les choses et le public peut aider à faire changer les choses. Et surtout que bah, dans mon cas, vu que c'est l'espace, ça paraît loin et on se rend pas compte en fait. On se rend pas compte déjà à quel point on est dépendant de ce qui se passe là-haut, mais aussi de l'impact qu'on a là-haut. Et donc quand on me parle de mission habitée vers Mars, je dis bah il y a déjà un danger en fait que ça se passe mal en termes d'écologie pour Mars, vu ce qu'on fait sur Terre autour de la Terre.
Donc le citoyen aussi sa part, c'est ce que vous dites aussi finalement en filigrane, c'est que comme dans vos vidéos, Solal Moisan, l'individu malgré tout, même si on lui fait reposer beaucoup de choses sur les épaules, il a aussi la capacité de faire bouger les lignes.
Bien sûr, et puis là on se rend compte de plus en plus, moi j'avais un petit peu de mal avec ça au début avec Camille, c'est-à-dire que je l'aidais à porter son discours, mais j'avais un tout petit peu peur que notre action soit un peu vaine, et au fur et à mesure le temps lui a donné raison, puisque aujourd'hui je peux même de manière très pragmatique vous parler des actions, c'est-à-dire que quand on demande aux gens d'interpeller leurs députés, d'aller les voir dans leur circonscription par exemple, c'est une force énorme et un poids énorme dans les discussions après à l'Assemblée ou alors dans les lois qui sont faites.
Jean Prouvot.
Oui, alors moi, ce à quoi je suis très sensible à travers ces documentaires, c'est le fait que petit à petit, les choses changent, les points de vue changent. Et pour avoir repéré de 2000 à 2025 les mots qui sont entrés, hein, en 2014, on a climato-sceptique. À l'époque, c'était un peu partagé. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui raisonnablement, je dis.
Ça se discute, ça, malheureusement.
Non, non, ce qui frappe après, c'est que arrivent des choses en 2016, c'est les particules fines. Puis après, on évoque la permaculture en 2018. Puis on arrive petit à petit au locavorisme. Et on évoque assez rapidement l'éco-geste aujourd'hui. On évoque la zone de faible émission, l'investissement socialement responsable. Et quelque chose qui m'a beaucoup ému, c'est la preuve d'ailleurs de l'émotion, c'est en comparant un petit Larousse 1905 et un petit Larousse donc 2025. La maison. Eh bien, la maison, on la voit dans son architecture, une très belle planche avec les différentes pièces, etc., en 1905. Et puis là, on est en 2025, sur la planche qui donc est consacrée à l'environnement, aux questions environnementales, on a la maison écologique. Et là, je retrouve toute une série de mots que j'apprends. L'ombrière, la toiture végétalisée, la pompe à chaleur, le puits canadien. Et on sent bien qu'il y a une évolution phénoménale. Plus personne ne prend ça à la légère, même serait-on climato-sceptique, que le puits canadien intéresse.
Donc
ce changement de maison...
Ça évolue avec la société.
C'est vraiment le travail que vous faites. Travailler en profondeur. Et le petit Larousse récupère cette information et essaie de l'offrir en bouquet.
Solal Moisan, on va écouter un extrait de Toxic Buddies. Donc c'est le nom de votre docu récent sur les PFAS. Extrait d'abord avec la voix de Camille Etienne et ensuite on entendra Pauline Servant, toxicologue à Génération Future.
J'ai besoin de comprendre tout. Une fois que j'ai tout compris, après, je peux... Après, on simplifie, on prend les trucs importants et tout, tu vois. Et là, c'est encore hyper flou pour moi, en fait.
Enfin, les PFAS, c'est une famille de substances chimiques qui sont fabriquées par l'homme, qu'on ne retrouve pas naturellement dans l'environnement. La liaison carbone-fluor, c'est une des liaisons les plus stables de la chimie organique. Elle est incassable, enfin, on n'arrive pas à la casser. Et donc, cette résistance, ça donne plein de propriétés super intéressantes pour les industriels, comme résistance à la chaleur, résistance à l'eau, résistance aux graisses, etc.
Poêle à frire, tenue de pompier, emballages alimentaires, revêtements anti-tâches, les PFAS sont désormais partout.
Voilà, les toxic buddies qu'on peut voir donc toujours sur Internet.
Ouais, sur la chaîne YouTube d'Avant l'Orage.
Ça s'est fait dans des conditions hallucinantes, parce que vous aviez l'échéance aussi de la loi, du vote de la loi, donc vous vouliez que le film soit prêt à ce moment-là, et il a fallu quand même vous immerger dans le sujet que vous ne connaissiez pas très très bien quand même. Hein.
C'est-à-dire qu'un mois et demi avant, nous on n'entend pas du tout parler des PFAS, et surtout, moi la seule connaissance que j'en avais, c'était le film Dark Waters, qui est un super film pour vulgariser un petit peu le sujet, mais qui se passe en Amérique et qui centre le sujet autour des poils. Alors c'est bien, mais le truc c'est que les PFAS c'est partout, et comme l'a dit la voix à l'instant. Et donc on a découvert ça, et en fait on avait l'échéance de la loi, mais surtout quand on fait un film, et surtout avec la volonté qu'on en a, c'est-à-dire d'influencer à la fois les députés mais même le grand public, il faut que ça se fasse avant. Donc on s'est donné 2 semaines de latence, donc il a fallu faire le film en très peu de temps, donc en un mois et demi et en 5 jours de montage pour un 50 minutes, ce qui est très très court.
Donc vous avez eu des nuits courtes, on va dire.
Voilà, très très peu
arriver justement au vote de la loi, qui a donné quoi d'ailleurs in fine?
Eh ben Pour nous, c'est évidemment pas assez ambitieux, mais c'est déjà énorme parce que il s'agit. Alors, il faut encore que ça passe au Sénat, hein, mais il s'agit d'interdire l'utilisation dans les vêtements. Je vais pas dire de bêtises. Donc, dans les vêtements, dans les. Je crois que c'est les. Non, j'ai un doute en fait. C'est vêtements de fast fashion, je dirais, justement. Et je crois qu'il y en a, il y a deux autres utilisations. Et c'est pas assez parce qu'en fait, par exemple, les poils qu'on a aujourd'hui chez nous, eh ben, Tefal a réussi à l'enlever de la loi. Et ça, c'est un petit souci. Parce qu'en fait, ils gagnent du temps, mais en réalité, le temps nous donnera raison. C'est-à-dire qu'au moment, il faudra les enlever.
Et alors, justement, vous avez pu rencontrer Tefal ou pas? Est-ce que vous avez eu des velléités d'aller enquêter un peu dans les coulisses des poils?
Alors, des charges, on n'a pas eu le temps. Enfin, en tout cas, quand on a eu des appels avec eux, ils nous ont pas répondu. Mmh. Ça, c'est une chose. Avec plus de temps, je pense qu'on aurait vraiment enquêté jusqu'au bout pour aller avoir quand même un contrepoint de vue. Mais il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que les entreprises qu'on a pu aller voir nous ont vraiment gentiment, et c'est d'ailleurs dans le documentaire, dit de, enfin, nous ont remercié, quoi.
Ouais. Solal Moisan, donc ça, c'est les vidéos du réel, hein, finalement, ces reportages. Est-ce que vous auriez envie aussi de revenir vers la fiction ou pas?
Oui, carrément. C'est un de nos objectifs là dans les prochaines
avec
années.
Avec Camille Etienne aussi.
Avec Camille, bien sûr, pas toujours. Hein. Et l'idée, c'est de changer un petit peu la manière dont on voit à la fois l'activisme, parce qu'on commence à y être un peu avec Camille, et on se rend compte que les récits qui sont autour de nous, qui existent déjà, sont pas assez représentatifs de ce qu'on vit au quotidien, mais surtout, ils ne glorifient pas du tout l'activisme en lui-même. Ils sont même d'ailleurs très souvent décevants et clichés. Donc, on aimerait bien pallier à ça.
Avant l'orage, hein.
Avant
c'est
l'orage,
sur Instagram pour aller voir un petit peu ce que vous produisez avec Camille, Étienne, Fatouma Takabé. J'ai oublié de dire qu'il y a une rencontre qui est prévue demain à la librairie Le Divan aussi.
Effectivement.
Avec votre livre pour les Parisiens qui sont dans le 15e arrondissement, par exemple, 203 rue de la Convention. Vous viendrez signer votre ouvrage. Un jour, est-ce qu'on pourra vivre ailleurs que sur Terre? Demande Sarah. En 10 secondes, est-ce qu'on peut lui répondre?
Alors, j'espère que non, tant qu'on ne sera pas capable de respecter l'environnement sur Terre, autour de la Terre et sur la Lune.
Et ça paraît très compliqué quand même, a priori.
Exactement.
Merci beaucoup à tous les trois. Le Larousse 2025, Jean Pruvot. Oui. Et puis, c'est l'heure de retrouver la chronique d'Anaël Verzeau.
France Inter, la Terre au carré.
Ça s'appelle Le jour où.
Je m'appelle Marc-André Solos, je suis professeur du Muséum national d'histoire naturelle à Paris et je vais vous raconter le jour où j'ai vu sans doute le champignon qui m'a le plus fasciné quand j'étais petit. Ma première foliote dorée faite de plusieurs champignons réunis par le pied et rutilant d'or. Le mercredi 20 octobre 1982, comme tous les mercredis, je vais avec mon grand-père au bois de Vincennes, parce qu'il n'y a pas classe, et je vais ramasser des champignons. J'avais 13 ans et demi, j'étais donc pas très vieux, mais j'avais déjà une passion pour les champignons, qui à l'époque consistait à les observer, et à les dessiner, puis à donner un nom aussi. Aussi des fois à aller voir des pharmaciens pour leur demander les noms et voir s'ils avaient bon. C'était assez facétieux, ça. Mais donc voilà, avec mon grand-père, il m'emmenait, on allait en bus hein, jusque dans le bois, et puis là, on faisait des boucles variables, et il détestait que je m'aventure dans les fourrés. Donc moi, je voulais aller dans les fourrés, lui, il voulait pas, parce qu'il avait peur qu'il m'arrive des tas d'histoires bizarres. Enfin, bref, il avait des inquiétudes de grand-père, mais j'avais réussi à pénétrer dans ce fourré-là, et à cet endroit-là, j'ai trouvé ce champignon absolument fascinant. Cette foliote dorée, elle était d'un jaune pétant, hein. C'est jaune doré. C'est un groupe, hein. Ils sont tous attachés par la base, c'est un champignon à lamelles et il s'était déployé, le plus grand d'entre eux, tenait à peine dans mon panier, il faisait plus pratiquement 20 cm de diamètre, tout ça rutilant de doré, c'était grandiose, quoi. Voilà. J'avais jamais vu de champignons aussi fascinants, alors même que j'avais commencé à ramasser les champignons déjà, ça faisait un an que j'en ramassais pratiquement tout le temps. Puis on est revenu donc la semaine suivante, elle était toujours là, mais surtout, et c'est là que ce champignon marque aussi un point important dans ma vie, c'est que l'automne suivant, ben, il est ressorti. Et bon, c'était pas le premier que je retrouvais au même endroit, mais là, comme il m'avait particulièrement marqué, ça m'a posé cette question de savoir mais pourquoi il ressort. Et c'était le moment où je commençais à lire des ouvrages, des livres, je comprenais pas tout, hein, mais où je découvrais que le champignon, c'était pas du tout ça, c'était pas ce qu'on voyait, ce n'est pas ce qu'on voit. Pour moi, c'était frappant de voir que il y avait ce contraste entre le fait que les filaments sont microscopiques, mais l'organisme peut être longévif et vivre plusieurs années. Et donc effectivement, mes foliotes dorées, je les ai retrouvées au moins 3 ans de suite.
Marc-André, qu'est-ce que ce jour a changé pour vous?
Bah, il n'a pas changé la direction qui m'emmenait vers les champignons. J'étais déjà fasciné par ces organismes. En fait, c'était le début d'un cheminement qui m'a mené à devenir, maintenant on peut dire, un microbiologiste, parce que les champignons que nous étudions dans mon laboratoire, beaucoup ne se voient pas du tout, ne se voient même jamais, même quand ils se reproduisent. Donc, ça m'a précipité dans la vie quotidienne des champignons, et de là, dans le fait qu'il y a des organismes microscopiques. Et puis aussi, il faut le dire, ça m'a un peu précipité dans l'écologie des champignons, parce que ce que j'avais sous les yeux à l'époque, c'était la preuve que non seulement les champignons sont de gigantesques recycleurs, parce qu'ils sont capables de recycler la matière organique, notamment la lignine, certes à côté des bactéries, mais pour la lignine, c'est les sols à le faire. Hein. Et non seulement c'est des recycleurs, mais en plus, eux-mêmes sont mangés, et leur rôle écologique ne se limite pas à ce qu'ils mangent, mais aussi au fait d'être mangés. Il faut savoir que les insectes xylophages, en fait, mangent les champignons qui se développent dans le bois. Ils avalent du bois, certes, mais ils en digèrent le champignon. Ils sont bien infoutus la plupart du temps de digérer le bois. Et en fait, il y avait là une leçon que j'ai progressivement compris, une leçon d'écologie des champignons. Écologie des champignons, c'est maintenant ma vie.
Le biologiste Marc-André Sellos au micro d'Anel Verzo.